les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, l'école à la radio, avec aujourd'hui une question. Qu'est-ce qui est juste et pas juste? Eh bien, pour le savoir, on va faire des calculs mathématiques pour apprendre à partager. Avec vous, Gérard Sansfaute. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors, je suis vraiment content de vous retrouver.
Oh ben nous aussi, hein. Puis alors si vous saviez, tous les auditeurs vous appellent le professeur parfait.
Ah ben, je sais pas, c'est peut-être pas le cas.
Bon, avec un tel patronyme en tout cas. En tout cas, je précise bien que vous avez été enseignant en école primaire pendant près de 40 ans. Et c'est vrai que vous adorez pimenter vos leçons avec des débats un peu philosophiques. C'est ce que vous avez concocté pour aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vous invite à faire un débat entre vous. Et ce débat, c'est pour tout le monde, hein, les petits, les grands, les parents, tout le monde. Et moi, je faisais ça en classe et mes élèves, ils avaient aussi un cahier de débat. Et dans ce cahier de débat, ben, ils notaient le titre du débat. Aujourd'hui, ça pourrait être la justice ou juste ou pas juste. Et ils notaient aussi au moins une phrase sur le débat et ils ajoutaient un dessin.
Et c'est ce qu'on va faire. Donc, et bien sûr, vous allez nous envoyer, voilà, les enfants, vos dessins, vos points de vue sur le sujet. Mais on fera aussi des calculs. Alors, petite précision, on vous a envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Les enfants, les tatas, les grands frères qui aidaient les enfants et les parents. Il faut préparer 4 peluches qui représenteraient des chimpanzés ou bien 4 dessins de chimpanzés dessinés à la va-vite là sur les pages du cahier. Vous les découpez et puis 16 bananes ou 16 morceaux de bananes ou sinon 16 dessins de bananes. Mais enfin, il faut que vous ayez quelque chose à donner aux chimpanzés puisqu'on va nourrir une famille de bébés chimpanzés. À la récréation, l'histoire du jour, la ruse de l'agneau et puis enfin la chronique de Didier Akwété, l'innovation business en temps de crise sur le continent africain. L'émission est réalisée comme chaque jour en direct avec une équipe en confinement et en studio. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita et moi-même. Et bien sûr, vous commentez, vous suggérez, vous nous questionnez avec vos messages 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Entre nous, mais on est nombreux à écouter l'école à la radio. Tafa est à Richartol dans le nord du Sénégal. Il nous dit, moi je suis un jeune enseignant et grâce à l'émission d'hier sur les adjectifs qualificatifs, eh bien j'ai découvert une nouvelle technique pour enseigner les adjectifs en utilisant le très, très joli, très grand. Et là on est sûr, effectivement, c'est ce que nous disait Marie-Christine hier, que c'est bien un adjectif qualificatif. Et pour moi, ça sera plus facile à enseigner pour mes élèves, nous dit Tafa. Samakoun, il est enseignant à Bamako, Mali, la leçon de l'adjectif, très intéressante, surtout la technique pour identifier sa place dans la phrase. Ou encore Ousmane qui est au Mali, lui aussi il est enseignant, il nous écoute avec beaucoup d'intérêt. Merci Ousmane. Et Mimis aussi est à Capesterre en Guadeloupe, vers Basse-Terre. Je suis une adulte en confinement et en télétravail, j'écoute l'émission pratiquement tous les jours. C'est un moment différent, instructif, attrayant où il n'est pas question de Covid-19. C'est vrai qu'on respire un tout petit peu. Et bien sûr, tous vos messages postés sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71.
Bonjour Madame Emmanuel Bastide, je suis Jean-Luc et je vous envoie ce message depuis la commune de Cocody, Abidjan. Ah, je ne suis pas trop doué en maths, mais avec la leçon de Monsieur Sansfaute, si ça continue, je vais m'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai arrivé à me concentrer beaucoup sur la leçon et puis on ne m'a pas beaucoup fatigué aujourd'hui au travail parce que moi je suis confiné sur mon lieu de travail. Donc c'est pas facile de faire les trucs en même temps, de faire le travail en même temps, se concentrer sur la leçon. Mais aujourd'hui, j'étais un peu en paix, donc je me suis beaucoup concentré. Je sais que de jour en jour, ça va aller. Et puis j'encourage tout le monde, les enfants et puis des personnes qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école quand ils étaient petits, à suivre ce cours. Et c'est sûr que ça va aller. Avec M. Sansfaute, il a pu faire quelque chose. je suis un peu fier de moi aujourd'hui.
Ouais, il est bien là, Gérard Sans Faute, il vous écoute. Bravo Jean-Luc, c'est vrai que l'école à la radio n'est pas réservée qu'aux enfants, elle est aussi ouverte à tout le monde, en particulier aussi à ceux qui n'ont pas fait les bancs, comme on dit.
Bonsoir Emmanuel, je suis Deben Anne-Emilie Ludli, j'ai 9 ans. Je suis en Haïti. J'aime participer à l'école à la radio, surtout les contes d'Héloïse. Et merci, à bientôt.
L'école à la radio, j'écoute Sarah. Ce qui me plaît le plus, c'est la géométrie. Et merci, oui.
Ouais, les matins, on refera des séances de géométrie, hein, parce que vous avez été nombreux à nous envoyer des photos de figures géométriques trouvées dans la maison ou dehors, et puis à chercher aussi à calculer l'aire du triangle. Allez les juniors, vous êtes prêts? Il va falloir écouter très attentivement, et puis ensuite envoyer vos réponses sur WhatsApp. Préparez vos animaux, vos morceaux de bananes ou de nourriture pour de faux ou pour de vrai, c'est comme vous pouvez. Et puis on va compter, on va réfléchir, et on va s'amuser.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
12h16 et 40 secondes à Paris, 10h16 à Dakar. Allez, on démarre, il est grand temps, Gérard Sans Faute. Jeu et problèmes mathématiques, mais on démarre avec une activité pour les plus petits d'abord, Gérard.
Je vais commencer pour les plus jeunes, parce que je sais qu'ils ne veulent pas être oubliés. Alors, je leur propose un problème de partage. Écoutez bien. Sur ma table, il y a 10 jetons. Je donne la moitié des jetons à Assa et l'autre moitié à Noam. Combien de jetons aura chaque enfant ?
Alors, les grands, vous ne donnez pas la réponse aux plus petits. Hein. Il faut qu'ils trouvent en distribuant les jetons.
Voilà, tout à fait, parce que c'est un problème de partage, moitié-moitié, et un partage équitable. Chacun va en avoir autant. J'ai donc 10 jetons. Alors 10, on avait vu que c'est un tas de 10 jetons et 0 jeton tout seul. Alors, ça s'écrit avec un 1 à gauche et un 0 à droite. 1, 0. Alors, pour le partage, bien sûr, je dois casser le tas de 10.
Oui.
Je dois casser la dizaine.
Bien sûr.
Et je vais prendre, puisque c'est cassé, je vais prendre les jetons un à un et les distribuer. Alors, je donne un jeton à Assa, un jeton à Noam. Donc ça fait 1 plus 1 égale 2. Mais il me reste des jetons. Alors je continue. Encore un jeton à Assa et un jeton à Noam. Ils en ont 2 chacun. 2 plus 2 égale 4. Mais il me reste des jetons. Encore un jeton à Assa et un jeton à Noam. Ils ont maintenant 3 jetons chacun. 3 plus 3 égale 6. Alors il me reste encore des jetons.
Oui.
Encore un jeton à Assa et un jeton à Noam. Ils en ont maintenant 4 chacun. 4 plus 4 égale 8. Il me reste encore des jetons. Encore un jeton à Assa, un jeton à Noam, et ils en ont 5 chacun. 5 plus 5 égale 10. Ça y est, tout est distribué. Alors on peut donner la réponse. Alors les petits, ils donnent la réponse à l'oral. Chaque enfant aura 5 jetons. Voilà. Donc les enfants, là, ils ont partagé en cassant la dizaine.
Exactement. Et bien sûr, ensuite, ils peuvent se réentraîner en faisant le calcul de tête quand ils sont un petit peu plus grands. Alors maintenant, on passe vraiment à la question centrale de la séquence aujourd'hui, puisque vous nous avez annoncé de la réflexion et des mathématiques. On est autour d'un problème de distribution sur une histoire de bébé chimpanzé. Expliquez-nous, Gérard.
Voilà. Alors c'est une situation, effectivement, avec les 4 chimpanzés et les 16 bananes que vous avez apportées ou que vous avez dessinées devant vous. Là, ils sont maintenant devant vous. Et dans cette histoire, les parents chimpanzés veulent partager 16 bananes entre leurs 4 enfants. Mais comment les partager ? Alors vous, comment feriez-vous? Alors, dans un premier temps, c'est vous qui allez librement faire le partage, placer à votre manière les bananes devant les quatre chimpanzés.
Alors, on va leur laisser le temps, hein, les enfants, vous allez le faire, vous allez mettre autant de bananes ou de... Si vous n'avez pas de bananes, prenez des morceaux de ce que vous voulez, ça peut être des allumettes, on imagine, hein, bien sûr. Mais il faut bien répartir de la nourriture devant chaque chimpanzé. On vous laisse quelques secondes à votre idée, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème mathématique encore pour le moment. Voilà, ils sont en train de partager.
Oui, mais ce qui se passe, c'est que les parents souhaitent que ce soit le plus juste possible. Alors, ils discutent en famille. Et chacun des bébés chimpanzés peut donner son avis. Alors, les bébés chimpanzés vont donner leur avis, chacun leur tour.
Ouais.
Alors, le premier enfant, c'est bébé chimpanzé le plus âgé qui donne d'abord son choix. Et lui dit, comme je suis le plus âgé, j'ai besoin de plus de nourriture, mon corps a le plus de besoins, je dois donc prendre le plus. Et ainsi de suite, selon l'âge de chacun. Alors, par exemple, 7 bananes pour moi,
ah oui,
parce que je suis le plus âgé. 5 bananes pour lui. 3 bananes pour lui et une banane pour le plus jeune.
Ah oui. Alors là, c'est pas vraiment ce qui s'appelle un partage équitable, mais c'est en tout cas son interprétation du partage. Hein, le bébé chimpanzé le plus âgé qui veut prendre le plus.
Tout à fait. Ben, vous pouvez disposer les bananes devant les chimpanzés et effectivement, ça correspond bien à ce qu'il a dit parce que 7, c'est plus grand que 5. 5, c'est plus grand que 3, et 3, c'est plus grand que 1. Et si on additionne les 4 nombres, 7 plus 5 plus 3 plus 1, ça fait, alors 7 plus 3 que je mets ensemble, ça fait 10, plus 5, 15, plus 1, 16. Voilà.
Donc il a bien partagé, effectivement. Il n'a pas partagé équitablement, mais il a bien partagé. Tout le monde a bien quelque chose à manger, on est d'accord Gérard?
Tout à fait. Mais le deuxième enfant dit, moi je ne suis pas d'accord. C'est bébé chimpanzé qui a de bonnes notes à l'école, qui travaille bien à l'école, et il donne son choix. Et il dit, comme j'ai des bonnes notes à l'école, c'est moi qui ai le plus de mérite. Je dois donc avoir le plus. Et ainsi de suite pour les autres. Alors, lui choisit de donner 6 bananes pour lui.
Alors, vous pouvez le faire en même temps, les enfants. Hein. Donc, vous mettez 6 bananes, 6 morceaux de nourriture devant l'un des chimpanzés.
5 bananes pour un autre. 4 bananes pour un autre. Et une seule banane pour le quatrième. Alors, vous les avez placés, et effectivement, si on prend ces nombres, 6 est supérieur à 5, 5 est supérieur à 4, 4 est supérieur à 1.
Alors, c'est l'écriture mathématique, vous l'avez enseigné d'ailleurs il y a quelques jours dans l'émission, avec le fameux signe supérieur ou inférieur, et on se souvient que ce signe, qui ressemble à un V couché, c'est la gueule du crocodile, qui ouvre grand sa gueule vers le plus grand nombre, hein, pour pas vous tromper, si vous voulez, les plus grands, chercher à mettre sur le papier l'écriture mathématique. 6, plus grand que 5, plus grand que 4, plus grand que 1, et vous faites donc le signe supérieur ou inférieur, donc dans le bon sens.
Tout à fait. Et si on fait l'addition, 6 plus 5 plus 4 plus 1, je prends d'abord le 6 et le 4. 6 plus 4, 10, plus 5, 15 plus un 16, il y a bien les 16 bananes.
Le compte est bon.
Ça a été distribué.
Voilà, ça a été distribué selon le bébé chimpanzé qui a de bonnes notes à l'école et qui a donc fait une distribution au mérite. Et donc, il a pris la meilleure part. Il y a un troisième bébé chimpanzé qui a un autre sens du partage, Gérard Sans Faute.
Ah oui, bah lui, il dit encore qu'il n'est pas d'accord. C'est bébé chimpanzé équitable.
Ouais.
Alors, lui, il donne son choix.
Ah, lui, c'est monsieur loyal, lui.
Ah oui, tout à fait. Il dit, la loi dit que dans un héritage, dans une famille, on doit partager entre les enfants. La loi dit toujours ce qui est juste. Alors, on doit donner 4 bananes à chacun.
Donc, là, vous allez le faire pour voir, hein, 4 bananes à chacun. Déjà, vous entendez bien que tout le monde va avoir le même nombre de bananes.
Alors, 4 égale 4 égale 4 égale 4. Et si on additionne tout, 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait bien les 16 bananes.
Voilà, tout comme on aurait pu dire, 4 fois 4 chimpanzés égale les 16 bananes. Tout le monde est nourri, mais tout le monde a la même chose, contrairement aux autres bébés chimpanzés. Il doit y avoir du débat dans cette famille de chimpanzés, dites donc, hein, Gérard.
Ah, j'espère qu'il y aura aussi du débat dans les familles de ceux qui nous écoutent. Alors, il y a encore un autre chimpanzé qui n'est pas d'accord.
Ah bon ?
Et c'est bébé chimpanzé très fort, qui veut donner son avis. Et il dit, je crois que c'est encore plus simple. Je suis le plus fort, donc je dois tout avoir. C'est comme ça dans la nature. C'est le plus fort qui gagne. Donc vous devez tout me donner, sinon j'ose même pas dire ce qui va vous arriver.
D'accord.
Voilà. Alors.
Là c'est facile, donc, hein. Il y a comme calcul mathématique.
On met tout à chimpanzé le plus fort.
Donc vous le faites, les enfants, allez hop, vous raflez toute la nourriture devant un seul chimpanzé.
Donc là, on a pour l'addition 16 égale 16 plus 0 plus 0 plus 0. Il y a 3 fois 0, il y en a qui n'ont rien eu.
Voilà, alors, 16 plus grand que 0.
Voilà, alors vous avez peut-être votre avis à vous. Peut-être que vous êtes d'accord avec un des bébés chimpanzés. Peut-être avec plusieurs.
Alors, s'il y a des enfants qui nous écoutent, qui sont toujours des super bagarreurs à la récré, peut-être qu'ils sont d'accord avec le bébé chimpanzé le plus fort. Je ne sais pas. D'autres, au contraire, qui s'intéressent à la loi, qui veulent le partage équitable.
Voilà. Alors, chacun pourra dire son avis quand vous discuterez. Mais là, le souci, c'est pour les parents. Parce que les parents, il faut qu'ils décident. Et les parents, finalement, ils hésitent entre plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions qui sont proposées et il n'y en a aucune qui satisfait tout le monde. Mais ils doivent choisir. Donc pour les parents, c'est un vrai dilemme. Là, ils sont obligés de prendre une décision avec quelque chose qui ne satisfait pas tout le monde.
Mmh. Un dilemme. Donc
c'est, voilà. Ah oui, un dilemme, c'est ça. Les parents sont soumis à un dilemme et ils doivent décider. Mais peut-être que vous-même, vous avez encore un avis différent. Moi, j'ai un avis un peu différent. Je ne vais pas le dire, mais moi, j'ai un avis différent.
Ah, vous avez un avis différent de toutes les versions proposées, de tous les points de vue des différents bébés chimpanzés ?
Ah ben, j'ai une proposition, je peux la dire, si vous voulez, ou je la garde pour moi,
alors,
mais je peux la dire.
Vous allez la donner. En attendant, je voudrais quand même que les enfants puissent réfléchir un petit peu, hein, avec quel bébé chimpanzé vous êtes d'accord, avec le plus âgé, celui qui a de bonnes notes, avec le bébé chimpanzé équitable, lui, il veut tout partager, ou avec le bébé chimpanzé très fort, qui veut tout garder, toute la nourriture. Vous pouvez bien sûr nous envoyer vos points de vue, ou sinon vous demandez aux grands frères, à ceux qui sont avec vous, de vous aider, et vous envoyez vos messages au 33 1 84 22 71 71. C'est le compte WhatsApp de l'émission. Envoyez des messages audio et dites-nous vos réactions, ce que vous pensez de cette histoire, plutôt de cette dispute familiale finalement, où personne n'est d'accord pour partager toutes les bananes entre les bébés chimpanzés. 33 1 84 22 71 71. Et vous Gérard, alors quel est votre point de vue là-dessus?
Moi je me dis que souvent, quand on est une famille, il y a des familles voisines. Et quelquefois, on peut partager aussi avec les enfants voisins. Au lieu de se les partager entre nous, il y a aussi l'idée de partage avec d'autres.
Oui.
Mais c'est une proposition. Il y en a sûrement d'autres.
Oui. Alors là, ça donnera lieu encore à un autre problème mathématique dans ces cas-là. Si on rajoute les voisins, ça va être une division... non plus à quatre chimpanzés, mais il ne restera peut-être pas grand-chose à manger pour les bébés chimpanzés, si tous les voisins viennent.
Ça complique la situation.
En général, vous terminez toujours vos séquences mathématiques et philosophie par une pensée de philosophe avec vos élèves, c'est ça?
J'en trouve même quelquefois plusieurs. Là, je vais en proposer une. Je cherche, parce que les philosophes, ils ont des avis, et là, c'est sur la justice. Et j'en ai trouvé une que je vous propose, et vous pourrez peut-être réagir. Alors, écoutez bien. Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Alors, subir l'injustice, ça veut dire être victime d'une injustice. La commettre, c'est être responsable d'une injustice.
Alors, selon vous, je vais relire la phrase de Socrate, hein. Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Qu'en pensez-vous, les enfants? Est-ce qu'il vaut mieux être celui qui fait de l'injustice, qui procure de l'injustice, ou bien celui qui est victime de l'injustice? Dans le cas des chimpanzés, ça serait celui qui commettrait l'injustice, c'est le chimpanzé le plus fort, qui garde tout, et puis celui qui subit l'injustice, ce sont tous les autres chimpanzés qui n'ont rien à manger. Voilà. Des problèmes de partage, il y en a beaucoup comme ça, évidemment. Vous allez nous en soumettre d'autres, parce que maintenant, on va passer à des problèmes mathématiques.
Est-ce qu'avant, je peux expliquer comment on peut organiser un débat?
Ah oui, bien sûr.
Pour que ça ne fasse pas une dispute. Parce que tout à l'heure, on parlait de dispute. Tout le monde, personne n'est d'accord.
Vous avez raison.
On peut organiser un débat de façon organisée. Quand je faisais le débat dans la classe, je faisais... Voilà.
Justement, quelle est la différence entre un débat et une dispute?
Alors, dans une dispute, on parle en même temps, on essaye de parler plus fort que les autres, et quelquefois ça peut dégénérer. Donc, quand on fait un débat qui fonctionne bien, chacun doit pouvoir parler. Même à la limite, quelqu'un qui ne veut pas parler, il écoute les autres, mais il pense des choses dans sa tête... même s'il ne les dit pas. Alors, quand je fais un débat, il y a un bâton de parole. Et c'est un petit bâton qui passe de main en main, et celui qui a le bâton est le seul à pouvoir parler. Alors, il s'exprime, personne n'a le droit de lui couper la parole. Mais il ne parle pas plus d'une minute, parce que sinon il y aurait des bavards qui parleraient trop longtemps. En général, si vous le faites, il faut que ce soit un adulte qui décide du passage du bâton de parole d'un enfant à l'autre. Ça permet à chacun de donner son avis. Et si on veut reparler, parce qu'on n'a parlé qu'une minute, on peut reprendre la parole après pour répondre à ce qu'ont dit les autres. Donc on parle chacun son tour. Ça permet de faire des débats intéressants.
Oui, parce que tout le monde a la parole, donc la parole est partagée équitablement. Alors, pas forcément avec un chronomètre en main, comme lors des débats télévisés pour des élections, par exemple. Hein, mais globalement, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut réclamer le bâton de parole pour donner son point de vue. Et vous, vous avez un bâton de parole, c'est notre compte WhatsApp, 33 01 84 22 71 71. Les enfants, vraiment, on attend vos réactions sur ces partages, des partages mathématiques ou pas du tout mathématiques. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez, comment vous situez par rapport à ça. Gérard, on arrive bientôt à la fin de notre leçon mathématiques et justice et on a promis qu'il y aurait des problèmes mathématiques. Vous nous proposez... un problème de niveau, c'est quoi, CM1, CM2, là, celui que vous nous proposez ?
Oui, niveau CM1, CM2. Ouais. Alors, je vais lire l'énoncé. Tu dois partager 835 pièces d'or entre 8 pirates de manière à ce que chacun en reçoive autant.
Est-ce qu'on peut relire l'énoncé ? Donc, tu dois.
Ce que chaque pirate recevra.
Alors tu dois partager 835 pièces d'or. Donc, ça, c'est le chiffre que vous devez noter. 835 pièces d'or. Entre 8 pirates, de manière à ce que chacun en reçoive autant. Et la question du problème, Gérard ?
Alors, c'est trouve ce que chaque pirate recevra. Donc, pour partager entre les 8 pirates, ce qui m'intéresse, moi, bien dans le nombre, c'est de voir que dans 835, ça commence par 800 et que la recherche, elle peut se faire un peu dans sa tête parce que 800 pièces à partager entre 8, ça peut faire gagner du temps et je pense que certains d'entre vous sont déjà sur la piste pour trouver. Voilà.
C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut surtout pas prendre la calculette.
Ah bah tout à fait. Ah bah je ne sais pas si j'ai le temps de vous dire, quand je vais acheter mon pain, mon marchand, il utilise la calculette et quand il a fini, qu'il me dit le prix, moi j'ai déjà mis l'argent devant lui. J'ai été plus vite en calculant de tête. Donc la calculette, je lui dis, elle calcule juste, mais elle est un peu lente. Voilà.
Alors là, comment vous calculez ? Alors, parce que c'est vrai que les plus grands là ont tout de suite réagi en se disant, bon bah 835, il faut le partager entre les 8 pirates, donc c'est une division, hein ?
Tout à fait.
Mais il faut qu'elle tombe juste, parce que vous avez dit qu'il faut que chacun en ait autant.
Alors, chacun doit en avoir autant, mais peut-être que ça tombera juste, peut-être que ça ne tombera pas juste. Et si ça ne tombe pas juste, ben, les pièces, on ne peut pas les scier en deux, les partager, ce qui en reste. Donc on peut se dire qu'il restera peut-être des pièces d'or et on peut dire que c'est le chef des pirates qui les garde pour lui. Disons. Mais
Alors est-ce qu'on donne la solution ou pas ? Allez, on va donner la solution là.
On va donner la solution. Alors, 835, c'est 800 plus 35. Donc si on partage les 800 pièces, ils vont déjà en avoir 100 chacun.
Exact.
Donc déjà 100 pièces à chaque pirate. Et il ne nous en reste plus que 35 à partager.
Ouais.
Si on récite sa table du 8, 1 fois 8, 8, 2 fois 8, 16, 3 fois 8, 24, 4 fois 8, 32, et ben 5 fois 8, 40, on dépasse les 35 pièces.
Donc les 35, on ne peut pas les partager équitablement, là. Ça ne tombe pas juste, divisé par 8.
On ne peut pas leur en donner 5. Donc on s'arrête à 4 pièces chacun. 4 fois 8, 32. Et comme on en avait 35, il nous en reste 35 moins 32, 3. Il restera 3 pièces qu'on ne peut pas partager. Et si on regarde combien de pièces a chaque pirate a d'abord reçu 100 pièces et ensuite 4 pièces. Donc 100 plus 4, 104.
Donc chaque pirate aura 104 pièces d'or et il restera 3 pièces sur la table qui ne seront pas partagées.
Voilà,
c'est bien
tout
ça.
À fait. Tout à fait. Tout à fait.
Avant qu'on passe à un dernier problème, oh, on a à peine le temps, on va juste donner l'énoncé, mais je voulais vous lire une réaction de Agwamba qui est en RDC, qui nous dit qu'elle a beaucoup aimé votre façon de partager avec les voisins pour l'histoire des bananes et des chimpanzés. Bon voilà, ça c'était votre point de vue à vous que vous avez donné, mais on espère que les enfants vont donner encore d'autres points de vue sur le partage. Et puis aussi un message de Ripson qui est à Brazzaville au Congo Brazza, ni subir ni commettre injustice. Socrate avait tort. Effectivement, ni subir ni commettre d'injustice. On peut toujours rêver d'un monde sans injustice. Allez, on va lire le dernier problème, Gérard, parce qu'après, il faudra qu'on se quitte. Et on ne va pas donner la solution. C'est toujours un problème de niveau CM1, CM2. On partage 192 euros entre 27 enfants et 3 adultes.
Tout à fait.
Mais
chaque adulte reçoit 10 euros. Donc, on se demande combien chaque enfant recevra-t-il. Donc là, il faudra plusieurs calculs pour trouver. On peut peut-être le relire.
On partage 192 euros entre 27 enfants et 3 adultes. Chaque adulte reçoit 10 euros. Voilà, on va le poster sur les réseaux sociaux. On va aussi poster un problème bonus beaucoup plus compliqué sur notre page Facebook. Et surtout, vous n'oubliez pas d'envoyer vos réponses, vos suggestions au 33 1 84 22 71. 71. Gérard, sans faute, on vous remercie beaucoup. On vous retrouve vendredi pour une séquence sur la compréhension du monde qui nous entoure. Et vous avez choisi une leçon. Vous êtes en train de préparer une séquence sur les abeilles parce que vous avez été apiculteur dans une autre vie, non, je crois?
C'est ça, tout à fait. Quand je n'habitais pas Paris et que j'habitais à la campagne, j'avais des ruches. Je faisais l'école et j'avais des ruches.
Et vous aviez bien raison. Et aujourd'hui, vous êtes confiné à Paris. Alors, la vie est mal faite. Hein. Les enfants, en tout cas, vous allez découvrir tout ce que font les abeilles dans une seule journée. Et dans quelques instants, ça sera l'histoire du jour. Vous allez découvrir un agneau rusé face au loup. Mais tout de suite, c'est Lizzo sur RFI, 7 milliards de voisins. L'école à la radio. À très vite, Gérard.
With your bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single, ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM.
Truth Earth, Lizzo, chez 7 milliards de voisins. Vous écoutez l'école à la radio, on est en direct sur RFI et comme chaque jour, une histoire racontée par Héloïse Auria.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
La ruse de l'agneau. Un conte traditionnel adapté par Claire Jaubert. Assis sous un grand chêne, un berger joue de la cithare en chantant. Son chien roux, couché près de lui, écoute la musique et surveille le troupeau. Les moutons broutent paresseusement l'herbe jaunie. Le soleil, haut dans le ciel, répand une forte chaleur. Les moutons s'assoupissent. Pas un souffle de vent ne fait frémir les feuilles. Plus rien ne bouge, même le chien somnole. Le berger s'allonge au pied de l'arbre, mais il n'ose pas dormir car il a peur pour son troupeau. Il tend l'oreille. Pas le moindre bruit. Toute la nature semble dormir sous la chaleur. Rassuré, le berger tire son chapeau sur son visage et s'assoupit à son tour. Le petit agneau brun du troupeau ne dort pas. Il s'ennuie. Il aimerait tant aller voir ce qu'il y a derrière le petit bois de sapin. Mais maman brebis ne permet pas. Et quand elle a le dos tourné, le berger et son chien veillent sur lui. Quel ennui de rester tout le jour au même endroit. Maman brebis s'est endormie. Tout autour, les moutons du troupeau somnolent. Le berger là-bas ronfle bien fort et son chien dort aussi. C'est le moment de partir à l'aventure. L'agneau se dresse sur ses pattes et regarde autour de lui. Personne ne le surveille. Il s'écarte de quelques pas. Personne ne le rappelle. Alors, gambadant de son pas léger, il s'éloigne vers le petit bois. Bientôt, il ne voit plus le troupeau caché par les sapins. C'est la première fois qu'il se sépare de sa mère. Son cœur bat un peu plus fort. Il hésite un peu, mais poursuit son chemin. Au cœur du bois, il entend soudain un bruit de pas. Il s'arrête, retient son souffle. S'est-il trompé? Dès qu'il repart, le bruit reprend. Mais pourtant, ce n'est pas le bruit de ses propres pas. Quelques branches craquent derrière un buisson et soudain, une grosse bête noire bondit devant lui. L'agneau brun la connaît bien. Maman brebis lui a tant parlé du vilain loup. L'agneau tremble de tous ses membres. Il sait qu'il ne peut pas se battre. Il sait aussi qu'il ne peut pas fuir. Mais il n'a pas envie de mourir. Alors il cherche dans sa tête une idée. Vite, vite! « Bonjour, mon tout petit !» lui dit le grand loup d'une voix mielleuse. Il bave tant il a faim. L'agneau regarde avec frayeur ses longues dents pointues.
Bonjour, monsieur le loup !»
répond-il en rassemblant tout son courage. « Où t'en vas-tu seul de ce pas ?»«
Je me promène, monsieur !»
Sais-tu que les grands loups comme moi se régalent des agneaux comme toi ? Et le loup noir, pas à pas, s'approche du petit agneau brun. Ils se retrouvent nez à nez. L'agneau raidit les pattes pour cacher qu'il tremble.
« Ce sera un honneur pour moi d'être aujourd'hui votre dîner, »
répond-il.
« Mais permettez-moi, avant d'être mangé, de faire une dernière fois ce que j'aime le plus au monde. »
Le loup n'a jamais vu une proie si docile. Son estomac gargouille, mais il est intrigué. Il se dit qu'après tout, il n'est pas si pressé. « Et qu'est-ce que c'est ? » demande-t-il.
« C'est de chanter, monsieur le loup. »
« Ah oui !» Le loup trouve bien curieux qu'au lieu de pleurer, sa proie ait envie de chanter. « Eh bien, chante, petit, si ça t'amuse tant !» Le petit agneau brun s'assoit sur ses pattes de derrière, prend son souffle et soudain, il se met à bêler de sa petite voix du plus fort qu'il peut. Le loup ne comprend pas. Il connaît bien le chant des oiseaux, les chansons du berger, mais tu ne sais pas du tout chanter ! S'écrie-t-il en grinçant des dents. Et le pauvre agneau bêle de plus belle.
Il bêle si fort qu'il n'entend pas les aboiements du chien, ni les pas du chien qui accourt. Mais le loup, lui, a l'oreille fine. Il a tout juste le temps de détaler pour échapper aux dents du chien et aux bâtons du berger. Le petit agneau brun tremble encore. Il se réfugie dans les bras du berger qui fronce les sourcils en le regardant. Cette fois non plus, il ne saura pas ce qu'il y a derrière le petit bois.
La ruse de l'agneau est une histoire racontée par Héloïse Auria à la mise en onde Romain Dubrac. Vous pouvez réécouter comme toutes nos émissions d'ailleurs en podcast ou sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins ou encore sur l'appli RFI Pure Radio. Et cette histoire est éditée chez L'Harmattan dans la collection des contes des quatre vents.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Milliards de voisins. On parle aussi d'économie dans cette émission. Économie, mais à portée des lycéens, à portée des étudiants et puis très utile pour les entrepreneurs. On est en ligne avec le coach Didier Akouété en direct d'Abidjan. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le président d'Afrique Search et aujourd'hui on s'intéresse à l'innovation parce que c'est vrai qu'en Afrique le risque lié au Covid-19 a mis évidemment un coup d'arrêt à la croissance économique, mais on voit depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux de très nombreuses innovations liées aux besoins finalement suscités par la pandémie. Alors l'innovation au temps du Covid, ça ressemble à quoi selon vous, Didier Akouété?
Alors, peut-être déjà rappeler que l'Afrique est une terre d'innovation, et
oui,
on le voit, moi, depuis que je suis tout petit, on innove avec des outils extrêmement simples pour créer un monde imaginaire, et on le voit encore plus ces dernières années avec toutes ces start-up, en fait, qui pullulent sur le continent, et dans cette période de Covid, je vois passer beaucoup de créativité, beaucoup d'inventions, entre cette tablette qui a été créée par un Guinéen qui permet de prendre la température directement, de faire même des scanners de manière automatique. C'est une innovation majeure dans ce contexte de Covid.
Ouais, c'est une tablette avec une caméra infrarouge et qui permet effectivement, très utile pour les soignants, voilà, de prendre la température du corps.
Absolument, ou cette application qui a été développée très tôt à Kigali qui permet de renseigner un certain nombre de données pour que rapidement on sache si vous êtes infecté ou pas infecté. Ou alors à Accra ou à Lomé, nous avons vu ces espèces de stations de lavage de mains avec du savon automatisé avec des minuteurs qui sont parfois fabriqués avec les moyens du bord,
oui,
mais qui constituent des innovations réel dans ce contexte.
Ah oui.
Bovidon.
Ouais, j'ai vu un lavabo génial au Ghana, hein, dans des bidons recyclés avec l'eau qui coule et le minuteur pour être sûr que les gens passent bien au moins 20 secondes à se laver les mains, 20 ou 30 secondes.
Tout à fait. On le voit aussi au Maroc, par exemple, ces cabines qui désinfectent les individus avant qu'ils ne rentrent dans les espaces publics. Donc réellement, je pense qu'on peut, dire que l'Afrique a pris maintenant, hein, guillemets, la tête au niveau des jeunes en matière d'innovation et de créativité, et il faut juste qu'on arrive à les transformer en projets plus sérieux,
ouais,
maintenant.
Alors justement, quand on voit passer ces vidéos sur YouTube notamment et dans les médias, bon, c'est très sympa, mais comment on passe de l'innovation au projet commercial?
C'est ça vraiment toute la question, hein, qu'on se pose depuis ces dernières années, mais déjà il faut savoir que ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts de fait en Afrique. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 500 hubs technologiques sur le continent. C'est extraordinaire. Quand on va à Nairobi, entre la Silicon Savannah, qui est l'équivalent de la Silicon Valley au Kenya, ou ces espaces à Lagos, à Kigali, on voit bien qu'il y a ces espaces qui se multiplient justement pour passer de la phase, entre guillemets, d'invention toute simple à la phase suivante, il faut qu'on arrive à innover et à donc incuber en réalité tous ces projets. Et c'est là où justement les espaces d'incubation aujourd'hui dont je parle, qui sont en train de se développer sur le continent, sont indispensables parce qu'il faut absolument incuber ces projets. Et incuber ces projets en réalité, et c'est leur permettre de trouver vie, donc de trouver des modèles économiques qui vont aller, d'expérimenter, de tester, et puis finalement de trouver des structures qui peuvent accompagner financièrement. Donc l'incubation ou l'accélération de ces projets, c'est vraiment l'étape clé qui permet de dire que ces projets sont des projets qu'on peut réellement implémenter, ils peuvent avoir un impact, on peut les amener à l'échelle, en anglais on dit scalable, qu'on peut trouver des partenaires stratégiques et financiers pour les accompagner. Donc
c'est ce n'est qu'il faut quand même trouver de l'argent très vite, parce que là on est en contexte de crise, donc l'innovation en temps de crise, elle est véritablement reliée à des besoins du moment, donc c'est pas pour dans 2 ans l'argent.
Il faut savoir quand même, et ça aussi c'est une information importante, que depuis 2018, les start-up africaines ont reçu plus d'un milliard de dollars. C'est-à-dire on était à 500 millions de dollars une année avant, et aujourd'hui on a plus d'un milliard, même si c'est vrai, à peine 5% de ces start-up arrivent à faire financer leurs projets, ce qui est extrêmement faible. Et c'est vrai, vous avez raison. C'est un peu le bas qui blesse. On peut avoir des idées géniales, on peut essayer de les incuber, mais il faut quand même des ressources, et c'est là où il faut arriver à créer un peu plus l'écosystème financier entre les business angels, entre les fonds de capital risque, entre les fonds publics qui peuvent permettre de soutenir ces projets.
Et il faut que l'argent arrive vite quand on parle d'innovation en temps de crise. Didier Akwété, je voudrais encore vous poser quand même une ou deux questions sur l'innovation, et le temps presse, mais comment on dépose des brevets, et puis surtout comment on fait vivre ces innovations après la crise ?
Les brevets, c'est assez simple. Si on est en Afrique, il y a l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et industrielle qui se trouve à Yaoundé, on peut le faire en ligne, ou alors même l'Organisation de la propriété intellectuelle mondiale, on peut déposer un brevet. Si ce sont des innovations, il faut les déposer. Aujourd'hui, c'est l'Asie qui tire les dépôts de brevets. Les pays asiatiques sont largement devant, et l'Afrique est vraiment dans le fond du classement. Donc il faut que les jeunes puissent déposer ces brevets, même si ça a un petit coût, mais au moins ça les protège, et ça protège leur innovation pour qu'ils puissent les développer demain, ou même les revendre à des grandes entreprises qui aujourd'hui investissent beaucoup dans ces startups et ces innovations pour les valoriser. Donc c'est important de déposer aujourd'hui les brevets quand ce sont des vraies innovations. On en a parlé dans une des émissions, justement, ce qu'était l'innovation d'ailleurs.
Et pour faire vivre ces innovations après la crise, sous-entendu quand les besoins peut-être ont changé ?
Alors ça, c'est un des gros enjeux. Je prends l'exemple de cette tablette fabriquée en Guinée. Après le Covid, il faut que cette tablette continue d'exister. Donc il faut arriver à rendre ces produits utilisables en dehors des cycles de pandémie. Donc cette tablette peut tout à fait être utilisée dans les cliniques, les hôpitaux, pour d'autres usages, ou ces tonneaux qu'on a vus au Ghana et à Lomé ou à Lagos, qu'on puisse tout à fait les démocratiser.
Oui, il y aura toujours besoin de se laver les mains. Ça veut dire que quand on pense l'innovation, il faut penser en même temps l'après.
Il faut penser l'après, c'est-à-dire il faut sortir de l'espace immédiat, parce que l'innovation n'a de portée que si elle arrive à s'adapter à des utilisations quotidiennes, courante au fil du temps, quitte à ce qu'on y apporte des innovations supplémentaires, mais c'est indispensable que ces créateurs ne se limitent pas au temps Covid de ces innovations, sinon après le Covid, ces innovations risquent de disparaître et de ne plus en être réellement, ou alors d'attendre la prochaine pandémie, ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment.
Merci beaucoup Didier Akwété de nous aider à voir aussi ce que cette crise finalement peut apporter de positif au continent. On vous retrouve jeudi, vous répondez à des questions d'entrepreneurs sur des cas concrets de leur entreprise, des problèmes de clients, de personnel, de produits en pleine crise sur le continent africain. Quel changement faut-il envisager ? Bref, vous pouvez poser toutes vos questions concernant votre entreprise si vous êtes un patron de PME. 33 1 84 22 71 71, c'est le compte WhatsApp de l'émission. On vous retrouve très vite, Didier Akwété. Très bonne journée semi-confiné à Abidjan. Merci à vous, et quant à nous, on se retrouve pour demain, l'école à la radio, 7 milliards de voisins. Salut les voisins.